tous. Merci pour toutes ces paroles, toutes ces exhortations. Il n'y a pas de mal. Tout à l'heure, Emmanuel disait dans le partage qu'il faisait pour les enfants qu'on avait besoin du Saint-Esprit pour reconnaître le vrai du faux. Pas que c'était un mouton au lieu d'un cheval, sans celle avec notre intelligence, mais reconnaître les choses d'en haut, les choses, quelquefois, les nuances. On a besoin de Dieu pour être guidé, reconnaître ce qui est vraiment de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et justement, le partage que j'ai eu sur le cœur ce matin, c'est basé sur comment reconnaître que c'est Dieu qui parle, comment il s'adresse à nous, comment il nous parle et comment il répond à nos interrogations, à nos questions. Qui ne s'est jamais dit « Oh, comme j'aimerais que le Seigneur me parle dans telle ou telle situation ?» Il n'y a personne à qui c'est déjà arrivé. On est dans un de ces pétrins et on se dit « Qu'est-ce que j'aimerais bien que le Seigneur il vienne là et qu'il me dise clairement ce qu'il veut, ce que je dois faire, comment je dois m'en sortir. » Est-ce que ça n'est arrivé à personne ? À qui c'est déjà arrivé? Oui, bon, ça va. Donc vous êtes concernés par ce que j'ai eu sur le cœur de vous partager. Je prétends néanmoins pas aborder la totalité des réponses. Forcément, ce que je vais vous partager, c'est issu de la Bible et issu des expériences que j'ai eu la chance et le bonheur de faire avec le Seigneur. Mais dans l'Église, il y a des richesses. On a vécu chacun des parcours complètement différents. Et la richesse du peuple de Dieu, c'est qu'on a chacun des expériences différentes, des réponses que Dieu a apportées à nos interrogations. Alors moi, je vais vous parler des miennes, et il y en a bien d'autres qui pourraient venir parler des leurs, et ça ferait une richesse. Mais je me suis penché sur la question, et j'ai essayé de faire un peu une synthèse de tout ça, comment Dieu s'est adressé aux hommes, a répondu à leurs interrogations, à leurs questions dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, de nos jours. Comment est-ce qu'on va reconnaître, ça c'est une réponse du Seigneur. Ou alors ça vient de moi, c'est mes sentiments, c'est pas toujours facile d'identifier clairement, si, ça c'est la réponse de Dieu, alors j'y vais. On n'a pas toujours des réponses aussi claires qu'on le voudrait, hein. Et quelquefois, on a l'impression, c'est long, Seigneur, mais réponds-moi, c'est long. Et dans Job 33, 14, il y a l'un des amis de Job qui dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Dieu parle aux hommes, mais souvent le problème... On a les oreilles bouchées, on a les yeux fermés et on a besoin de mettre des lunettes, de bien nous laver les oreilles quotidiennement, de vraiment d'incarner l'Esprit de Dieu en nous pour reconnaître que c'est Dieu qui nous parle et qu'il faut y aller. Alors on va parcourir rapidement, je ne prétends vraiment pas, comme je l'ai dit et je veux le répéter, faire l'inventaire des réponses de Dieu à nos attentes et à nos questions. Parce que c'est tellement un sujet vaste et les réponses de l'Éternel sont tellement différentes dans la richesse de la différence des situations que je ne pense qu'il n'est pas possible de tout parcourir. Mais j'en ai choisi quelques-unes qui, à mon avis, sont les plus marquantes, mais vous pouvez en avoir d'autres à vous qui vous sont personnelles et qui vous semblent plus marquantes. C'est pas gênant du tout. On va se pencher par quelqu'un qui a eu quand même un grand privilège dans l'histoire du peuple de Dieu, si vous doutez peut-être, c'est Moïse. Ce Moïse. Quand on lit dans Exode 33, 8, alors je vais laisser un petit peu de temps s'il y en a qui tournent les pages. Bon, moi avec l'ordinateur, j'ai fait du copier-coller, c'est sur ma feuille, parce que si je tourne les pages sans arrêt, je risque de perdre le fil. Donc, Exode 33, 8. Là, il est écrit, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tenez-vous bien, l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. On aimerait bien être à la place de Moïse, hein? Avoir ce privilège d'être seul face à face avec Dieu et d'entendre Dieu nous parler comme un homme parle à son ami. N'avez jamais eu cette aspiration, vous? Je pense que si, hein. Dans bien des situations et même quotidiennement, vivre ça avec Dieu, lui parler et l'entendre nous parler. Moïse a vécu ces choses qui sont extrêmement merveilleuses et grandes. Ben oui, Dieu lui parlait directement. C'était un homme extrêmement proche de Dieu. C'est merveilleux de prendre conscience de la profondeur de cette communion qu'il avait avec Dieu. Et je pense que chacun de nous, on a envie que Dieu nous parle de cette façon-là. C'était une façon de Dieu que Dieu a utilisé pour parler à son peuple. Donc, il parlait par Moïse, il s'adressait à Moïse directement. Vous savez aussi que Moïse a vu Dieu écrire les 10 commandements sur les tables avec son doigt. Cheikh Rachel m'en a fait la remarque plusieurs fois quand on parlait de ça, et elle se disait tenir les tables de pierre et savoir que c'est le doigt de Dieu qui a écrit dessus. De nos jours, il y a plein de monde qui, quand il tient un autographe d'un artiste, d'une star, il est ému. Oh, il a touché cette feuille avec son stylo. Mais là, Moïse, il tenait les tables du Dieu créateur, celui qui avait écrit avec son doigt dans la pierre. Quand même, c'est pas n'importe quoi, hein. Et ce même Dieu, il parlait avec Moïse. Donc tout au fil de l'histoire, on ne va pas tout parcourir, mais Dieu a de nombreuses reprises parlé à son peuple par Moïse. Mais ben, Moïse, c'était un être humain, il est mort un beau jour, et Dieu a continué de parler, et si on parcourt la Bible rapidement, il a parlé par des anges, par exemple. On peut pas voir Lot, Abraham. Un jour, ben, Lot, il a vu des passagers qui venaient là, et c'était des anges qui venait le prévenir que ben, Dieu allait détruire la ville. Lot habitait à Sodome, et des anges sont venus lui dire, « Bon, écoute, Lot, il faut partir, on va détruire la ville. » Dieu a utilisé des anges pour sauver les rares justes qui subsistaient encore à cette époque. Un jour, et bientôt, il viendra aussi nous chercher, nous, pour venir chercher la poignée de justes qui restera encore sur la terre. Un même ange aussi, nommé Gabriel, s'est adressé un jour à Marie pour lui annoncer la conception et la future naissance du Sauveur du monde. C'était un ange qui est venu. Voilà. Marie, soudain, elle avait un ange devant elle et lui a expliqué ce qu'il allait lui arriver. Dieu s'est adressé ainsi à Marie. Donc Dieu s'adressait directement à Moïse, il s'est adressé à des hommes, à certaines personnes, il y en a plein d'autres, hein, je n'en ai choisi que quelques-unes, s'est adressé à certaines personnes dans l'histoire par des anges, mais s'est adressé aussi à d'autres hommes par des prophètes. Qui n'a jamais entendu parler d'Élie, d'Élisée, de Nathan et bien d'autres encore? Il y a beaucoup de prophètes, si vous parcourez l'Ancien Testament, et Dieu parlait au travers d'eux, au peuple. Et quand les gens ne savaient pas que faire, que choisir, on envoyait voir le prophète. Et nous, ça nous arrangerait bien aussi de savoir que, ah ben ouais, telle rue là-bas, il y a un prophète de l'Éternel et oh, on va aller le consulter pour savoir ce que Dieu a à nous dire. N'avez pas cette envie, vous, quelquefois? Si. On aimerait bien. Et pourtant, on verra après qu'on a tout ce qu'il faut. Le Dieu ne nous laisse jamais seuls. On parcourt, là, toujours dans l'Ancien Testament. Ben oui, on sait tous ceux qui ont envoyé voir le prophète Élie, Élisée, Nathan qui est venu aussi spontanément voir un certain David un jour pour lui expliquer que, de la part de Dieu, que quand même il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Vous connaissez l'histoire. Oui, Dieu a toujours parlé à son peuple, à ses enfants, de plein de façons différentes. Jamais il n'a laissé son peuple démuni. Et nous, aujourd'hui, exactement de la même façon, on n'est pas démunis. On sent cette aspiration qu'on aimerait bien que, voilà, telle rue à Hasbrouck, et si, il y a un prophète et on peut aller le voir. Je suis sûr que si c'était le cas, on serait quand même nombreux à aller frapper à sa porte, vous croyez pas? Pour être vraiment sûr, je me pose cette question-là. Qu'est-ce que j'aimerais bien savoir? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois me lancer? Et le genre de questions, j'en ai recensé quelques-unes que j'entends, je suis papa aussi, des enfants. Alors, est-ce que cette fille ou ce garçon, c'est celui ou celle que Dieu a prévu pour moi? S'il y avait un prophète là au coin de la rue, je suis sûr que tu irais le voir pour lui poser la question. Ce serait pas, je suis pas en train de te reprocher. Pour des plus grands, est-ce que c'est la maison que je dois acheter? On irait voir un prophète, allez, dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a mis sur le cœur pour moi? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est cette maison-là? Est-ce que je ne vais pas être déçu? Et ce crédit, je vais devoir le rembourser pendant 15 ans, 20 ans. Est-ce que j'aurai toujours du travail dans 15 ans ou 20 ans? Seigneur, il le sait. Tu ne peux pas me dire si je dois me lancer ou s'il vaut mieux que je reste locataire? On se pose toutes ces questions. Si. Et pareil pour une voiture, est-ce que c'est le moment de changer? Est-ce qu'elle commence à avoir des pannes? Ça va peut-être s'aggraver? Ou ça va peut-être s'arrêter? Je continue ou je dois laisser? On se pose beaucoup de questions. Et comment aujourd'hui, à nous, le peuple de Dieu, le chrétien du 21e siècle, comment faire pour avoir nos réponses? Comment Dieu s'adresse à nous? Moi, je dirais la première des choses, c'est déjà de lui demander. On est d'accord? Et ce matin, on a entendu des requêtes. Et si on ne commence pas par faire connaître nos besoins à Dieu, fait déjà une erreur. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, sans oublier la suite avec des actions de grâce. Un verset que j'ai déjà cité dans Matthieu 7:7, verset que j'aime bien, « Demandez ». Et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ce sont des vérités profondément bibliques. Donc si tu t'approches de Dieu avec tes questions, avec tes incertitudes, avec tes doutes, pose-lui tes questions. Dépose tout ça à ses pieds et il l'a dit, il répondra, il ouvrira et il fera trouver à celui qui cherche. Et là, je vais vous raconter une petite expérience que j'ai faite. C'était il y a déjà bien longtemps, j'avais 18 ans à l'époque. J'étais étudiant à Lyon. Bon, désolé, mes enfants, vous connaissez déjà l'histoire. Vous la réentendrez une deuxième fois. Je ne pense pas l'avoir partagée ici. Donc voilà, j'étais étudiant à l'INSA de Lyon et je faisais pas mal de courses à pied, beaucoup de sport. Et donc j'allais courir au parc de la Tête d'Or. Si certains sont déjà allés à Lyon, vous devez connaître le parc de la Tête d'Or. Il y a plein de monde là qui fait le tour, ça fait à peu près 4 km. Et c'était en hiver et donc j'étais étudiant, donc j'avais une piole d'étudiant et donc une clé pour ouvrir la porte. Et on se trinque-balle pas avec des papiers, un sac et tout ça. Quand on va courir, on prend le minimum. Et j'avais juste ma clé. Donc ma clé, elle avait un l'anneau. Je le mettais autour de mon doigt, puis je mettais mes gants par-dessus. Et puis je courais. Je faisais mon tour ou mes tours, ça dépendait du temps que j'avais. Et c'était en hiver, il y avait plein de neige. Et donc j'ai fait mon tour ou mes tours, je ne me souviens plus. Et puis à la fin, quand j'avais couru, évidemment, j'avais chaud. Et puis j'ai retiré mes gants pour évacuer la chaleur. Et je ne me suis pas du tout rendu compte qu'en retirant mes gants, la clé est partie. Elle était tombée, je ne sais pas où, je ne savais pas où. Et puis, j'ai fait ma récupération, les étirements, tout ça, vous connaissez, hein, je ne vais pas vous faire la démo. Puis au moment de reprendre le chemin du retour, je veux remettre mes gants et là, tilt, oh, ma clé. Où est-ce qu'elle est? Alors, ben, j'ai cherché, j'ai fouillé autour, mais vous pensez bien, il y avait de la neige, il y a des gens qui étaient passés. C'est rechercher une aiguille dans une botte de foin, hein. Bon, je savais que c'était dans un périmètre pas trop loin de l'endroit où j'avais retiré mes gants. Mais il y avait de la neige et j'avais aucune idée. J'étais déjà bien croyant, je savais que j'avais un Dieu qui pouvait tout. Vous devinez que je lui ai demandé où j'avais fait tomber ma clé, parce que j'avais pas d'autre solution de toute façon. Il n'était pas question de rentrer chez papa et maman parce qu'ils habitaient à Liévin, moi j'étais à Lyon. Je n'avais aucune autre solution pour rentrer chez moi que de retrouver ma clé. Et je croyais que Dieu savait où était ma clé. Vous le croyez aussi, vous, hein? Lui, il a forcément vu quand j'ai retiré mes gants, quand ma clé est tombée. Il le savait et j'en étais profondément persuadé. Donc je me suis adressé à lui, « Seigneur, tu sais où est ma clé. Tu es le seul à le savoir. Moi, je ne sais pas. Et il faut que tu me dises où ma clé se trouve. » Ça fait rire, hein. Mais voilà, j'ai prié, j'ai cherché, et je n'ai pas trouvé. Mais je continuais à prier, tout en cherchant, en arrangeant pour ne pas avoir l'air trop ridicule, parce qu'il y a des gens qui passaient. Et puis, ben, je ne sais plus combien de temps est passé comme ça. Toujours est-il que le soir commençait à tomber, et je commençais à me dire, « Non, Seigneur, il faut que tu me répondes. J'ai pas d'autre moyen. » En plus, c'était un dimanche. Il n'était pas question d'aller au bureau des surveillants, il n'était pas là, pour avoir un double. En plus, ça m'aurait coûté bien cher, et j'avais pas trop les moyens. Et il n'était pas question d'envisager une autre solution qu'une réponse magistrale du Seigneur. Le soir commençait à tomber, le parc s'était vidé, j'étais tout seul à ce moment-là. Et quand je dis que le soir commençait à tomber, je m'en souviens bien, parce qu'il commençait à faire noir, et du coup les lumières se sont allumées dans le parc. Et je parle des lumières parce que ça va devenir important dans pas longtemps. Et comme le Seigneur m'avait toujours pas répondu, ou j'avais toujours pas entendu sa réponse, je me suis mis à genoux dans le parc, dans la neige. Et j'ai dit, les yeux fermés, « Seigneur, il faut vraiment que tu répondes à ma prière. Montre-moi clairement où est ma clé. Elle est là dans les parages, mais je sais pas où. Toi, tu le sais. » Quand j'ai eu fini ma prière, j'ai ouvert les yeux, et la lumière était allumée. J'étais sous le bon angle, tout ce qu'il fallait. Le faisceau lumineux réfléchissait par terre. C'était ma clé qui renvoyait la lumière du lampadaire qui était là tout près. Et voilà, ma clé ressortait ainsi en brillant parce que j'étais à genoux, sous le bon angle avec l'éclairage, sous le bon angle de réflexion de la clé. Je suis allé, je dis « Merci Seigneur ». J'ai ramassé ma clé, pensez bien, j'étais heureux et soulagé. Et je suis rentré au pas de course, j'avais froid. Et je suis rentré chez moi, et cette expérience, ça fait un bon paquet d'années maintenant, mais je m'en suis toujours souvenu. Le Seigneur avait répondu à ma prière. J'avais retrouvé cette clé. Je vous dis pas le soulagement, hein. Vous l'imaginez? J'avais pas d'autre moyen pour rentrer dans ma piole. Eh bien, le Seigneur avait répondu à ma prière. De cette façon-là, parce que j'étais à genoux. Hein, vous savez, pour qu'un objet réfléchisse, ben, avec le renvoi de la lumière, il fallait que je sois positionné pile au bon endroit, à la bonne hauteur, que la clé se trouve au bon endroit par rapport à l'éclairage. C'est, comme dirait Michael, le hasard avec un grand D. Mon Dieu avait tout conduit et il avait ainsi répondu à ma prière. Et si je demandais des témoignages, il y en a sûrement plein d'autres qui me diraient, ben oui, ben moi, dans pareil cas, il a répondu de telle autre façon. Et si on parcourit le monde entier, le Seigneur a répondu de plein de façons différentes à chacun. On a chacun des témoignages complètement personnels pour vous montrer que Dieu répond aux prières d'une façon infiniment personnelle, variée. Et on pourrait faire un livre, des livres, de toutes les façons différentes que Dieu, avec lesquelles Dieu a répondu aux demandes de chacun. Mais Dieu est capable de répondre précisément à chacun. Sinon, Dieu aussi, aujourd'hui, de nos jours, il a donné aussi des prophètes à l'Église. N'avez-vous jamais entendu parler du don de prophétie? Alors, on a déjà parcouru des églises. On sait que dans les églises de Pentecôte, on a plus souvent des prophéties qu'ici. Dans les moments de prière, c'est courant qu'un frère ou une sœur a une prophétie et il la donne. Ici, on le vit moins, mais on a d'autres expressions. On a, par exemple, le moment d'exhortation. Et c'est aussi, d'une certaine façon, un moment où Dieu s'adresse à une ou plusieurs personnes par le biais d'une exhortation. On est d'accord? Dieu peut aussi parler par une prédication. Il peut parler par moi ce matin, par d'autres aussi. Il peut te donner une réponse à tes interrogations au travers de la prière de quelqu'un, au travers d'une conversation, avant, après le culte, au travers d'un coup de téléphone. Dieu s'adresse à nous de plein de façons différentes. Et on doit chercher, comme c'est biblique, dans 1 Corinthiens 13, rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi l'apôtre Paul insiste sur ce don de prophétie? C'est bien parce que le peuple de Dieu a besoin d'être guidé. On a besoin de savoir ce que Dieu veut pour nous. Et ce don de prophétie qu'on doit chercher, on ne doit pas le chercher pour nous-mêmes, on doit le chercher pour l'édification de nos frères et de nos sœurs. Et je pense que quand on reçoit quelque chose, une pensée, une parole d'exhortation, une parole de connaissance, on se doit de la partager. On ne doit pas la garder pour nous. Et souvent, on n'ose pas, on est timide, réservé, et quelquefois le Seigneur nous donne quelque chose sur le cœur. On ne doit pas le garder pour nous. On doit le partager. Même si ça n'a pas l'allure d'une prophétie comme on peut voir ailleurs. Mais Dieu nous parle aussi par son Saint-Esprit. Tout à l'heure, Emmanuel en a parlé, pour reconnaître sa volonté. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui va nous donner le discernement de ce qui est de Dieu et de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on doit choisir et de ce qu'on ne doit pas choisir. L'Esprit de Dieu nous fait connaître dans notre être entier ce qui est en Dieu, puisque c'est son essence, c'est ce qui est en lui. Et si on est habité par l'Esprit de Dieu, alors on va savoir naturellement ce qu'il faut faire. Et c'est biblique. Dieu a dit que on est son temple. On est le temple de Dieu. Alors, si on est le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu habite en nous. Et dans ce cas-là, on est dans la même situation que Moïse tout à l'heure, croyez pas? Moïse, il était dans le temple, dans le tabernacle, dans la tente, en présence de Dieu. Mais si l'Esprit de Dieu habite en nous, finalement, on est dans le même cas que Moïse tout à l'heure, vous êtes d'accord? Sauf que je sais bien, Moïse, lui, il entendait Dieu qui lui parlait. Comme un homme parle à son ami, nous, on n'entend pas forcément la voix de Dieu comme Moïse l'entendait. Mais sa voix résonne, résonne en nous. Je pense que pour la plupart, nous avons déjà entendu cette voix de Dieu qui résonne dans notre être et qui répond vraiment à notre interrogation. Sinon, Dieu nous a donné aussi du bon sens. Ce bon sens qui fait tant défaut de nos jours dans le monde dans lequel on vit. Et l'apôtre Paul, il en parle du bon sens. Je vais vous lire un tout petit extrait. Bon, ça parle de... aux Thessaloniciens, donc dans 2 Thessaloniciens, pardon, chapitre 2, verset 1 et 2, l'apôtre Paul, il dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque personne, et que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Hein, Grégoire nous en avait parlé il n'y a pas longtemps. Le bon sens. Dieu nous a donné du bon sens. Et croyez-moi que quand, dans bien des situations, le bon sens à lui tout seul suffit à savoir ce qu'il convient de faire. N'êtes pas d'accord? Et il y a bien des jeunes hein, qui sont très jeunes dans la foi, qui se posent des questions. Et les plus âgés, ils ont acquis ce bon sens. Par toutes les expériences qu'ils ont vécues avec le Seigneur, ça s'est incrusté en eux. Et ils sont capables de répondre à ces interrogations. Et quand on a reçu vraiment ce bon sens que Dieu donne, alors on sait reconnaître la réponse du Seigneur. On sait reconnaître, identifier ce qu'il convient de faire. Et donc, comme je l'ai écrit, le simple bon sens répond à lui seul à la plupart des questions de la vie quotidienne auxquelles on peut être confronté. Pour continuer dans toutes les façons que Dieu utilise pour nous guider, on peut aussi parler de la Bible. On est tous d'accord ? Dieu nous a donné sa parole, la Bible. Et dans bien des situations, la lecture de la Bible répond à nos interrogations. Si nous nous imprégnons des paroles, nous nous imprégnons de la parole de Dieu, nous nous imprégnons ainsi de sa volonté, puisque ce livre merveilleux qu'est la Bible, il contient la totalité du message que Dieu a laissé pour l'homme. Et si on le lit quotidiennement, si on la médite, qu'on l'assimile, qu'on la mange chaque jour, alors elle devient une partie de nous-mêmes. Et alors elle répond aussi à toutes nos questions. Mais il faut prendre le temps de la lire. Et l'apôtre Paul, par exemple, était profondément rempli de ces vérités bibliques, au point qu'il a dit dans Galates 1, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Vous vous rendez compte? Si même un ange était venu pour prêcher un autre évangile à l'apôtre Paul, il lui aurait dit « Tu te retires de ma route. » Tellement il avait en lui cette certitude qu'il avait reçu la vérité par la parole de Dieu. Est-ce que nous en sommes à ce point-là, au point de ne pas nous laisser branler un seul instant par n'importe quoi qui pourrait arriver? Est-ce que nous sommes assez remplis de cette connaissance de la parole de Dieu pour résister avec une grande fermeté à tout ce qui pourrait s'écarter de la vérité de la parole de Dieu? Vous savez, dans les temps où nous sommes, parce que je pense que ça n'a échappé à personne, nous sommes dans les temps de la fin. Il est écrit que l'ennemi, il essaiera de séduire, s'il est possible, même les élus. Et si nous en sommes encore à hésiter sur cette reconnaissance que nous avons de la direction ferme de Dieu, alors lisons la Bible. Supplions Dieu pour recevoir son esprit, pour avoir cette ferme et forte assurance, et pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Et croyez-moi que la nuance sera fine, parce que si Jésus lui-même a dit que l'ennemi essaiera de séduire, s'il est possible, même les élus, s'il nous prévient de cette façon-là, c'est bien parce que ça ressemblera, hein. Et si on n'est pas fermement ancré en Dieu, qu'on n'est pas capable de reconnaître la voix de Dieu, on sera séduit. Donc reconnaissons bien ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Et toujours dans cet axe hein, de reconnaître, de s'attendre aux réponses de Dieu, dans nos prières, dans nos demandes, dans nos requêtes, comment reconnaître que c'est lui qui répond? Ben moi je pense aussi que nous avons notre part à faire. Dans le sens où, si nous demandons quelque chose à Dieu, il nous faut agir aussi dans le sens de notre prière. Je m'explique. Si on veut moissonner, ben il faut semer. On est d'accord? On peut supplier Dieu de récolter, mais si on n'a pas semé, et si personne n'a semé, on ne récoltera rien. On va chercher dans Ecclésiaste chapitre 11 au verset 6, il est écrit « Celui qui observe le vent ne moissonnera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Et comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Alors, c'est moi qui l'ajoute, le « alors », mais il est sous-entendu, « dès le matin, sème ta semence. » Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alors si tu veux récolter, ben dès le matin, sème. Et ça c'est vrai pas seulement pour semer l'évangile. Je m'en sers aussi pour mes enfants. Si tu veux la réussite dans tes études, sème du travail. Parce que si tu ne sèmes pas de travail, il n'y aura rien à récolter. Si tu veux que Dieu bénisse ton travail, ben il faut qu'il y ait du travail, sinon il n'y a rien à bénir. On est d'accord? Donc, Dieu, c'est vrai, il est capable de te donner ton diplôme, de te donner le bac ou le diplôme, ton doc, enfin ça n'existe plus, ta licence, ton master. Mais s'il n'y a rien derrière, il n'y a rien à bénir. Et là, tu peux prier tout ce que tu veux. Si tu n'as rien fait, il ne va rien se passer. Parce que c'est biblique. Si tu veux récolter, il faut semer. On est d'accord? S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de récolte. Tu auras beau crier à Dieu, si tu n'as pas bougé, si tu n'as pas semé, il n'y aura pas de récolte. C'est une loi naturelle et biblique. Donc, si on veut qu'il y ait des choses qui poussent, il faut semer. Sinon, pour continuer dans la façon que Dieu utilise pour nous guider, pour nous parler, on pourrait aussi parler des anges. Parce que on les voit pas, les anges, mais ça existe encore aujourd'hui. L'apôtre Paul le dit, certains ont logé des anges sans le savoir. On ne sait pas. Et bon, je n'ai pas vérifié la véracité, mais j'ai vu un témoignage sur YouTube qui concerne là aussi la fin des temps, et ça m'a quand même marqué, et je vais vous en parler, qui peut montrer que de nos jours, il y a encore des anges qui peuvent s'adresser aux hommes. Ça s'est passé en Allemagne, c'était en 2012, et c'était une chrétienne hein, qui était au volant de sa voiture. Et puis, il y avait un autostoppeur sur le bord de la route et c'était pas du tout dans son habitude de prendre quelqu'un en autostop. Et ce jour-là, elle s'est sentie vraiment poussée à le prendre. Alors, elle s'est arrêtée, cette personne est montée, s'est assise derrière. Et puis, je sais plus où elle voulait aller. Et donc, cette chrétienne a roulé en voiture. Et puis, elle essayait d'engager une conversation avec cette personne qu'elle ne connaissait pas du tout. Hein. Quand on prend quelqu'un en stop, on ne sait pas qui c'est. Et puis, cette personne a pris la parole et elle lui a dit, « Madame, déjà les trompettes sont à la bouche. » Elle était chrétienne et elle s'est dit, « Bon, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et puis, elle lui a dit, « Attendez, qu'est-ce que vous dites ?» Et donc, cette personne a répété, « Déjà les trompettes sont à la bouche. » Et cette chrétienne, elle était troublée et elle s'est retournée pour lui demander de répéter une nouvelle fois. Puis quand elle s'est retournée, il n'y avait plus personne. Elle était choquée, elle s'est arrêtée sur le bord de la route et elle est descendue de sa voiture pour reprendre ses esprits. Elle s'est dit, mais j'avais bien pris quelqu'un, et ce quelqu'un m'a parlé, puis d'un seul coup, plus personne. Et donc cette personne était choquée, elle avait beau être chrétienne, elle s'est dit, mais il s'est passé quand même quelque chose de bizarre. Elle est descendue de sa voiture et elle était dehors, et puis la police est passée, et elle s'est arrêtée en voyant cette dame qui était là dans cet endroit perdu, et ils lui ont dit, madame, il y a quelque chose qui va pas, non, il n'y a rien qui va mal, mais vous êtes là quand même, on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas, pourquoi vous êtes arrêtée? Et là, elle a dit, écoutez, si je vous raconte ce qui vient de m'arriver, vous allez me prendre pour une folle. Bah, racontez quand même. Alors, elle leur a raconté. Et là, pendant qu'elle leur racontait, c'était les policiers qui sont devenus verts. Elle dit, écoutez, madame, vous êtes la 7e personne qui nous raconte la même chose depuis ce matin. Et elle était chrétienne, cette dame, donc elle s'est dit, bah, c'est un ange qui est venu me parler. Bon, nous, on connaît dans la Bible, dans l'Apocalypse, hein, l'histoire des trompettes. On ne sait pas où on en est. En tout cas, on sait, on le reconnaît, on voit bien dans l'évolution de notre société qu'on est en train d'arriver au temps de la fin. Mais ben, Dieu, manifestement, il a envoyé un ange pour s'adresser à 7 personnes ce matin-là pour prévenir que ben, les trompettes, elles sont déjà à la bouche et qu'elles vont bientôt se mettre à sonner. Ben, Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il nous guide et il parle par son Saint-Esprit, il parle par des frères, par des sœurs, par une prophétie, il peut parler par une prédication, il peut parler par une exhortation, il peut parler par des expériences qu'on traverse. Je vois que j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais prendre le temps de vous parler d'une autre expérience aussi que j'ai vécue avec Dieu. Je suis désolé, c'est encore une histoire de clé. C'était une époque de ma vie où j'avais à peu près 19 ans et j'étais donc à l'église de Liévin où j'habitais et à cette époque-là, mon pasteur, qui s'appelait René Delattre, il me faisait prêcher souvent et il me voyait devenir pasteur et il me poussait beaucoup à aller dans une école biblique. Et il avait déjà sollicité l'église, parce que bon, j'avais pas les moyens, à cette époque-là, j'étais encore à mon service militaire. Et il avait déjà sollicité l'église pour m'aider à financer l'école biblique. Il voulait m'envoyer je crois que c'était à Toulouse. Et voilà, et moi, ben, il fallait que je donne une réponse. J'étais un peu au pied du mur, hein, il précipitait les choses à mon avis. Et il fallait que je donne une réponse sur ce que j'allais faire juste après mon service militaire, est-ce que j'allais à l'école biblique ou pas. Donc j'étais un peu dans l'embarras, hein. Il fallait décider rapidement, et j'avais pas cette conviction que c'était mon chemin, mais quand même, je me posais la question. Et comme je me posais la question, ben, il fallait une réponse. Et donc je demandais au Seigneur, ben Seigneur, écoute, guide-moi. Il faut que j'aie cette réponse pour parce que ben il y avait des dates d'inscription et il fallait que je dise oui ou que je dise non, quoi, c'était du concret. Et donc je priais en moi-même, Seigneur, guide-moi. Je sais pas quoi répondre. Moi je le sens pas, mais c'est pas parce que je le sens pas que c'est pas ta volonté. Moi je suis prêt à suivre s'il le faut, si c'est ma voie, ben j'irai, si c'est pas la mienne, il ne faut pas que j'y aille, parce que je voulais que Dieu conduise ma vie, et je le veux toujours. Et donc il fallait encore une fois une réponse claire. Et puis voilà, j'étais au service militaire, et pendant mon service, je fréquentais une église, j'étais en Allemagne, donc pas loin de Stuttgart, et j'avais fait connaissance avec des chrétiens, je fréquentais une église régulièrement, et le week-end, donc j'allais chez une famille chrétienne, qui savait un couple hein, qui est maintenant assez âgé. Jill, elle les connaît. Non, elle n'est pas là. C'est Hilde et Alex. Ah, si tu es là, tu les connais. Hein. Donc voilà. Donc je dormais chez eux le week-end. Et puis la semaine, ben, je regagnais ma caserne le lundi matin. Et voilà. Le lundi matin, on devait aller en manœuvre. Et j'avais passé le week-end chez Hilde et Alex, et puis au passage, j'avais un petit détail qui a son importance pour la suite, j'avais la clé de mon casier, là on n'a pas de clé de piole, hein. Mais on a la clé de son casier, autour du cou, moi j'étais sûr de ne pas la perdre, je l'avais tout le temps sur moi, Et cette clé, elle permettait d'ouvrir le casier dans lequel on a nos richesses, nos habits, notre tenue de bidas. Et tout était là pour aller en manœuvre. Et donc, le lundi matin, voilà. Et en fait, j'avais dormi chez Hilde et Alex et j'étais sur la route en bus pour aller à la caserne au matin. Et j'étais vraiment pas tranquille dans mon être entier. Vous savez, ça a dû déjà vous arriver. Vous êtes et puis vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous ne savez pas quoi. Ben moi, j'étais dans cet état-là ce matin, j'étais troublé. Il y a quelque chose qui n'allait pas et c'était vraiment très très fort ce matin-là. Et je ne savais pas ce qui n'allait pas, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'arrive à la caserne et soudain, ah, mince, ma clé. Eh, j'ai plus ma clé. Elle est où ? Encore une fois, une histoire de clé. Et bon, là, j'ai pas eu besoin de dire « Seigneur, guide-moi, où est-ce qu'elle est ma clé ?» Ça a fait tilt tout de suite. Bah oui, je m'étais douché, et pour me doucher, j'avais retiré ma clé. Et la clé, je l'avais oubliée sur la tablette dans la salle de bain, chez Hilde et Alex. Et c'était impossible d'y retourner. On devait partir manœuvre, vous connaissez l'emplacement du rapport et tout le machin. Fallait être à l'heure. Pas question d'être en retard, hein, Pascal, tu sais, à l'armée, c'est comme ça. Bon, il y avait une solution, évidemment. La grande cisaille, on coupe le cadenas, et l'affaire a été réglée. Mais donc j'ai vécu ça et puis voilà, j'étais conducteur de poids lourd, on est parti en manœuvre, je conduisais et pendant que je conduisais, alors là je vous assure, le Seigneur m'a parlé alors avec une clarté. Pendant que j'étais au volant et soudain j'ai senti la présence du Seigneur venir sur moi et le Seigneur il m'a dit, tu vois Emmanuel, tu n'étais pas tranquille tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Pour ta vie, pour le choix important que tu dois faire, c'est la même chose. Ce sera la même chose. Si tu choisis quelque chose qui n'est pas ce que je veux, sois sans crainte. Si pour une clé, tu as vraiment senti que ça n'allait pas, de la même façon pour ta vie, tu sentiras aussi que ça ne va pas. Ne t'inquiète pas. Ça ne pourra pas t'échapper. C'était d'une clarté. Et je ne peux pas vous dire que j'ai entendu la voix du Seigneur. C'est un peu comme si ça avait franchi l'oreille, que c'était arrivé directement au cerveau, quoi, de l'autre côté du nerf auditif. Mais c'était d'une clarté. Je ne pouvais pas contester que mon Seigneur m'avait parlé et m'avait donné, pas la réponse que j'attendais, mais m'avait fourni l'outil. Comment j'allais faire pour m'assurer que ce que je choisissais, c'était vraiment dans sa volonté ou pas. Alors j'ai dit d'accord Seigneur. Alors comme moi je le sens pas, j'ai pas l'impression que c'est ma voix, je vais rester sur cette position. Et je suis resté sur cette position. Évidemment mon pasteur n'était pas d'accord, mais je lui ai dit moi je pense que c'est pas la voie que je dois suivre et je vais en suivre une autre. Et j'ai suivi cette voie-là. Et voilà, et jamais j'ai senti que c'était pas ma voix. Et je me suis appuyé sur la façon avec laquelle Dieu m'avait guidé. Et c'est la mienne, elle est personnelle. Toi, tu vas en vivre une autre, tu en as peut-être vécu d'autres. Mais sache bien que si tu tiens à faire la volonté de Dieu, Dieu, il le sait. Et si tu lui demandes de te guider, sois sans crainte, il va te guider. D'une façon ou d'une autre. Peut-être de façon qui n'ont rien à voir avec ce que moi j'ai parlé ce matin, parce que comme je vous l'ai dit, Dieu s'adresse à chacun, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ce qui compte pour toi, c'est que tu saches reconnaître que c'est lui qui te parle. Il va te parler de la façon qui correspond à ton identité, à ce que tu sais de lui, à ton vécu, aux expériences que tu vas vivre, que tu vas parcourir, au chemin que tu as suivi. Les paramètres sont tellement multiples. Mais sois bien sûr qu'il va te répondre. Il va te guider parce que si tu l'aimes et si tu tiens à ce que ta vie soit conforme à sa volonté, il ne va pas te laisser dans l'incertitude. Il va te conduire. Alors, dis-lui tes besoins et attends-toi à une réponse. Quand j'étais au parc de la Tête d'Or, je suis resté à genoux dans la neige et je m'attendais à sa réponse tout de suite, parce que là, il le fallait. Mais il y a eu d'autres moments dans ma vie où j'ai tourné en rond Et vous le savez, j'ai déjà témoigné par rapport à ma guérison. On a tourné en rond pendant plus de 10 ans avec une spondylarthrite ankylosante dont on ne venait pas à bout. Et dans ces moments-là, il y a un verset qui me revenait souvent dans Lamentation de Jérémie 3, 26. Un verset qui me revenait, c'était « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Quelquefois, le Seigneur y répond tout de suite. Quelquefois, il nous fait attendre. Mais une réponse comme l'autre, c'est aussi bon de toute façon, parce que ça vient de Dieu. Alors, peut-être que tu vas attendre un bout de temps avant ta réponse. Mais dis-toi bien que même si tu dois attendre, de toute façon, l'attente vient de Dieu aussi, et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors, inclinons-nous devant le Seigneur. Ses réponses sont aussi diverses qu'il y a d'êtres humains sur la terre, mais ses réponses sont réelles. Elles sont tangibles. Elles sont là, et c'est à nous de les comprendre, de les reconnaître. Alors laissons-nous remplir par lui, par toute son essence, par sa connaissance, par sa parole, par son esprit, et apprenons à reconnaître les réponses qu'il nous adresse. Elles sont là, elles sont à notre portée, et usons de ce bon sens qu'il a déversé sur nous. Ça vient de lui aussi, le bon sens. Et inclinons-nous devant lui et remercions-le quand il nous répond, laissons-nous guider, partageons nos expériences les uns avec les autres. C'est une richesse. Une richesse pour nous, pour les autres, pour nos jeunes qui ont tellement besoin d'exemples, de modèles, de choses, d'indices pour comparer, pour chercher la volonté du Seigneur. On va prier et on va s'arrêter là.